Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halid Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Crise sociopolitique au Mali, quelles sont les positions des différentes parties? Est-ce qu'elles sont prêtes à dialoguer? Sur quelle base mesure-t-elle l'ampleur de cette crise et ses conséquences sur le pays et le citoyen lambda? Quelles peuvent être aujourd'hui les solutions? Le Grand Dialogue de Studio Tamani ouvre le débat. Nous recevons deux personnes, un représentant de la majorité présidentielle et un représentant de l'opposition. Amadou Koïta, ancien ministre, membre de la coalition des forces républicaines. CFR, Nouhoum Sarr, homme politique, membre du mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques M5-RFP. Je suis Mouhamadou Touré, auditeur, téléspectateur, chers invités. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Crise sociopolitique, désobéissance civile qui a repris depuis le lundi dernier. Aujourd'hui, Nouhoum Sarr, quelle est la position du mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques par rapport à cette crise?
Merci beaucoup, M. Touré. Avant de prendre la parole, permettez-moi de rendre un hommage sincère, appuyé aux 23 martyrs tombés sous les balles assassines du régime Ibrahim Boubacar Keïta. De rendre un hommage au président Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, qui aujourd'hui est retenu contre sa volonté, contre la volonté d'une bonne partie de la classe politique, et de souhaiter qu'il revienne par la grâce du bon Dieu le plus rapidement possible au sein de sa famille biologique et politique. Aujourd'hui, notre pays est à la croisée des chemins. Le M5, mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques, depuis le 5 juin, a décidé de mobiliser une bonne partie du peuple malien pour rentrer en résistance. En résistance face à l'oligarchie, face à la plutocratie qui aujourd'hui a été instaurée en mode de gouvernance dans notre pays. Et face à la répression violente du pouvoir politique en place, face à la dénégation de la réalité, face au refus d'écouter son peuple, le M5-RFP a décidé de ne plus reconnaître M. Ibrahim Boubacar Keïta comme président de la République. Et pour manifester cela, nous avons décidé de rentrer en désobéissance face à son pouvoir. Cela veut dire que le peuple souverain du Mali, en tout cas ceux qu'il souhaite, refuse désormais d'aller travailler au sein des services publics, refuse désormais d'alimenter l'économie, économie qui a profité au seul régime et à ses alliés. Donc nous sommes devant l'histoire, nous sommes face à l'histoire, et vous avez dû remarquer que du lundi à aujourd'hui, la jeunesse du M5-RFP est en mouvement de sensibilisation des travailleurs dans les services publics. Nous leur demandons poliment, gentiment, mais fermement, d'accompagner ce mouvement de résistance. C'est ainsi que des mairies ont été fermées, des structures locales des impôts et du trésor ont été fermées.
Fermeté et gentillesse vont-elles ensemble?
Non. Vous savez, la fermeté veut dire tout simplement que c'est sans embâche. Le peuple malien est aujourd'hui en résistance.
D'accord. Nous résisterons à tout. La position du M5-RFP, c'est que même s'il doit y avoir un dialogue, votre souhait, votre demande, votre exigence aujourd'hui, c'est le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta.
Et vous savez, nous sommes dans un pays de dialogue. Nous sommes dans un pays où la culture contient ce qu'on appelle les griots. Si dialogue il doit y avoir, il doit se faire autour des conditions du départ de M. Ibrahim Boubacar Keïta du pouvoir.
D'accord.
Parce que son maintien pour nous est une voie sans issue. Pour le Mali, pour la sous-région et pour le Sahel.
Okay. Amadou Koïta, aujourd'hui, quelle est la position du gouvernement malien, de la majorité présidentielle par rapport à ces demandes du M5-RFP?
Merci M. Touré. Je voudrais dire bonsoir à mon jeune frère Sarr et bonsoir aux auditrices et auditeurs du studio Tamani à travers les radios. et aux téléspectatrices et téléspectateurs. À la suite de mon jeune frère, je voudrais également m'incliner sur la mémoire de nos soldats tombés il y a juste quelques jours, en défendant la patrie, en défendant la souveraineté, en défendant la paix, en défendant la stabilité. Je voudrais également m'incliner sur la mémoire de nos compatriotes tombés à la suite des événements du 10 juillet, si je ne m'abuse, et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Nous, au sein de la majorité, nous lançons un vibrant appel à tout le peuple malien, surtout au M5RFP. Notre pays fait face aujourd'hui à un double défi, sinon un triple défi, un défi sécuritaire, un défi sanitaire qui auront des conséquences économiques. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'ère doit être à la cohésion, l'ère doit être au rassemblement, l'ère doit être au dialogue, puisque ce pays nous appartient tous. Nous sommes certes des démocrates, c'est parce que nous sommes en démocratie que M. Sarr parle de la démission du président de la République. Nous sommes des républicains, mais nous sommes avant tout des Maliens. Ça veut dire que nous sommes des patriotes. C'est ce pays qui a besoin de tous ses enfants aujourd'hui. Malgré les contradictions, malgré les incompréhensions, nous estimons aujourd'hui, suite à l'appel du président de la République, depuis la première manifestation du 5 juin, il a toujours tendu sa main. Tendu sa main à l'imam Diko, tendu sa main aux responsables politiques du M5RFP, puisque ce pays aujourd'hui, je viens de parler des 5 de nos soldats, sinon 6 de nos soldats qui sont tombés il y a quelques jours dans la 4e région. Nos soldats qui se battent aujourd'hui, qui au péril et au sacrifice de leur vie, nous permettent que nous soyons là pour débattre. Ces soldats souhaitent une seule chose, un message qui les réconforte, puisque cette guerre ne pourra pas se gagner seulement avec les armes. Cette guerre se gagne aussi avec l'esprit. Cette guerre se gagne avec le mental. Cette guerre se gagne avec le soutien et le message que nous apportons à ces soldats. Nous sommes en démocratie. M. Sarr nous parle de désobéissance civile. La désobéissance civile n'est pas la révolte, puisqu'il parle de résistance. Je ne vois pas on résiste contre qui. Je ne vois pas on résiste contre quoi. Pour nous, la désobéissance civile qui a été quand même, je ne dirais pas créée, mais amplifiée en 1849 par Henri David Thorens, qui refusa de payer les impôts, sinon des taxes à l'époque, puisqu'il estimait que ces taxes devaient servir à la guerre contre le Mexique. Il y a également Mahatma Gandhi, il y a Martin Luther King, il y a également le grand Nelson Mandela. Donc la désobéissance civile peut se définir tout simplement comme un refus assumé et public de se soumettre à la loi, à un règlement ou à un pouvoir qu'on estime inique. Mais la désobéissance civile utilise comme arme, de façon comme arme, l'arme pacifique.
Donc la position de la majorité présidentielle aujourd'hui,
jusqu'à présent, nous appelons
à dialoguer.
Nous appelons nos frères au dialogue.
D'accord. Est-ce que le M5-RFP est également prêt plutôt à dialoguer avec la majorité présidentielle, le président Ibrahim Boubacar Keïta?
Eh bien, mon interlocuteur, M. Keïta, a parlé de résistance. Résistance par rapport à qui? Eh bien, j'ai envie de dire résistance par rapport à ceux qui ont donné l'ordre de tirer sur les manifestants, de tuer des jeunes hommes de 16 ans, de 17 ans, qui n'avaient qu'une seule pancarte sur laquelle était inscrite « Nous souhaitons la bonne gouvernance pour notre pays ». Résistance par rapport à cette dame qui aujourd'hui occupe le poste de secrétaire général de la présidence, qui, dans un déni total de réalité, s'est permis d'adresser un message, un SMS aux diplomates, à plusieurs diplomates en poste à Bamako, leur disant que le 11 juillet, des djihadistes étaient retranchés dans la mosquée de l'imam Diko. Résistance par rapport à ces hommes et à ces femmes qui aujourd'hui ont pris notre pays en otage, qui sont dans une posture où ils se plaisent plus dans la jouissance du pouvoir que dans la réalisation de l'intérêt général.
Qui a pris le pays en otage, le président Ibeka?
Il s'agit de M. Ibrahim Boubacar Keïta. Je m'interdis de dire président.
Le président
Ibeka,
de la République a pris parce que le pour pays nous, en otage. Vous dites.
Le président, M. Ibrahim Boubacar Keïta, ce n'est pas président Ibeka. M. Ibeka et ses amis ont pris notre pays en otage.
D'accord. Aujourd'hui, vous savez, votre position, est-ce que vous êtes prêt à dialoguer?
Nous avons dit que nous sommes dans un pays de dialogue. C'est au nom du dialogue que le M5-RFP a proposé un mémorandum de transition. C'est au nom du dialogue que nous sommes rendus à l'invitation de la CEDEAO. C'est au nom du dialogue que nous continuons à échanger avec tous ceux qui voudraient échanger avec nous. Mais nous avons dit, à partir du moment où M. Ibeka, sous les conseils de quelques zélateurs autour de lui, a manifesté son mépris vis-à-vis de son peuple, le mémorandum proposé est devenu caduque. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a perdu tous ses effets. Il n'a plus aucun sens, il n'est donc plus d'actualité.
Mais dialogue s'il doit y avoir. Dialoguer encore.
Vous savez, dialogue s'il doit y avoir doit se faire autour des conditions de départ de M. Ibrahim Boubacar Keïta.
Oui, mais avant de parler des conditions, est-ce que le M5-RFP est prêt à dialoguer?
Mais le M5 n'a jamais rompu le dialogue.
Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les deux parties de dialoguer? Parce que vous semblez tous les deux être d'accord sur l'utilité et vous dites être prêt également à dialoguer.
Vous savez. Nous sommes dans le dialogue. Nous rencontrons des émissaires régulièrement. C'est le dialogue. Nous rencontrons les envoyés de M. Ibrahim Boubacar Keïta. C'est le dialogue. Mais nous sommes fermes. Nous sommes fermes sur cette posture qui est de dire que le dialogue doit porter sur les conditions de son départ. Son maintien au pouvoir, c'est une voie sans issue pour le Mali. Je vous rappelle, M. Touré, lorsque M. Ibrahim Boubacar Keïta a été élu, en 2013, l'insécurité n'était qu'à Kidal et Gao. L'insécurité était résiduelle. Mais aujourd'hui, l'insécurité, c'est à Bamako. C'est derrière le fleuve à Sigou. Donc pour nous, son maintien, ça va aggraver cette situation.
Le dialogue, donc, il dit être prêt pour le dialogue. Est-ce que vous aussi, vous êtes en train de dialoguer avec le M5-RFP, la majorité
des anciens? Nous sommes toujours prêts pour le dialogue. D'ailleurs, c'est ce dialogue qui nous a permis de tenir les élections législatives en mars-avril passé, le dialogue national inclusif, qui a quand même réuni le peuple malien dans sa diversité, je ne dirais pas de façon unanime, mais dans sa majorité écrasante, les partis politiques, les leaders religieux, bref, toutes les forces de la nation, pour parler du Mali, pour apporter chacun ce qui le concerne sa contribution pour une sortie de crise heureuse. Je l'ai dit, nous faisons face aujourd'hui à une crise sécuritaire qui est surtout le terrorisme. Nous savons, nous avons conscience qu'il y a des défis, nous avons conscience qu'il y a des difficultés. Mais devrons-nous aller à l'instrumentalisation des défis auxquels nous sommes aujourd'hui?
Qui instrumentalise ces défis?
Je crois que vous venez d'écouter mon frère, M. Sarr, qui parle au nom du peuple, dont la courtoisie républicaine voudrait quand même qui cite son excellent monsieur le président de la République,
qui s'est dit être républicain. Il dit que le dialogue est en cours. Est-ce que
non,
vous
le dialogue
confirmez
est en
également
cours,
que
nous
le dialogue est en
que
cours.
Le dialogue soit
alors,
en cours.
Qu'est-ce qui bloque?
Mais je pense aussi les propos. Monsieur Sarr, on doit faire excessivement attention. Vous savez, la violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit physique, est toujours le lit des hommes en manque d'idées, en manque d'amour. Je crois que nous devons faire excessivement attention en utilisant nos propos. Vous venez de citer la secrétaire générale de la présidence de la République. Je pense qu'il faut faire excessivement attention. Ayons du respect les uns à l'égard des autres. Nous avons toujours dit, il y a quelques semaines, la CEDEAO est venue au chevet du Mali. Il y a eu deux missions techniques et une mission politique et un sommet extraordinaire pour venir nous aider à sortir de cette crise, puisque notre pays constitue une digue dans la lutte contre le terrorisme. Voilà pourquoi nous disons à nos frères du M5-RFP, qui savent déjà quand même qu'au Mali, le pouvoir, comme le supplie l'article 121, le fondement de tout pouvoir réside dans la Constitution. La souveraineté appartient au peuple, l'article 26 dit ça, qui l'exerce à travers ses représentants. Et aucune fraction du peuple, aucun individu ne peut en attribuer l'exercice. Je pense qu'au sein du M5-RFP, si je ne m'abuse, il y a 4 ou 5 candidats des dernières élections présidentielles 2018, qui ont quand même recueilli moins de 5%. Lui-même, Sarr, était candidat aux élections législatives en commune 4. Le score qu'il a eu, je le sais, il le sait. Donc c'est pour dire tout simplement aujourd'hui, c'est le peuple malien qui a confié la destinée du pays au président Ibrahim Boubacar Keïta lors des élections présidentielles en 2018.
Vous êtes en train de parler de la mission de la CEDEAO.
Où en
sommes-nous avec la mise en œuvre des recommandations de la CEDEAO aujourd'hui?
Oui, nous sommes là-dessus. La CEDEAO est venue nous aider pour sortir de la crise.
Mais le délai n'est-il pas dépassé?
Oui, bon, vous savez, construire la paix à un coup, ça n'a pas de prix. Notre souhait était qu'on puisse régler cette situation avant ce délai, mais qu'à cela ne tienne, la main tendue du président de la République reste, la main tendue du Premier ministre reste. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement, un mini-gouvernement qui a été mis en place parce que le président de la République a souhaité un gouvernement d'union nationale à travers un accord politique de rassemblement national. C'est pour dire tout simplement que le pays a besoin de tous ses enfants. Quittons la posture extrémiste radicaliste. Quittons cela.
Il y a sur Facebook plusieurs internautes qui ont posé des questions. Bokar Haïdara demande pourquoi la CEDEAO reste silencieuse puisque le délai est dépassé par rapport à la mise en œuvre de ces recommandations.
Oui, ces recommandations doivent nous aider à sortir de la crise. Certes, nous sommes déjà au terme du délai, mais qu'à cela ne tienne, nous continuons encore à négocier avec nos amis du M5RFP. Et nous savons également que ils ont à cœur le Mali, ils ont à cœur la stabilité, ils ont à cœur la sécurité de notre pays, ils ont à cœur également l'union sacrée autour de l'essentiel.
La CEDEAO avait parlé de sanctions. Dina Mamsis sur Facebook demande si la CEDEAO doit sanctionner avec le délai dépassé. La première sanction devrait tomber sur quel groupe et pourquoi?
Non, moi je pense, en tant que majorité, nous aujourd'hui, nous continuons toujours avec le dialogue. Et nous sommes persuadés que le génie malien fera en sorte que nous nous entendions dans les jours à venir. Puisqu'il dénonce la mauvaise gouvernance, il dénonce la mauvaise gestion. Bon, voilà pourquoi le président les a tendus la main. Venons tous autour du pays. Venons tous dans un gouvernement d'union nationale pour qu'ensemble nous trouvions des solutions par rapport aux problèmes posés. Mais essayer d'instrumentaliser, essayer d'en faire un fonds de commerce. Et il faut faire excessivement attention, M. Sarr. Sarr vient de cibler, je pense que par rapport aux événements du 10 et 11 juillet, les enquêtes sont en cours. Ayons confiance à notre justice.
Sur Facebook,
nous regrettons
toujours
ce qui est arrivé.
Une question pour
M.
Sarr. Sur Facebook, Mohamed Ousmane Halidou Maïga qui dit « Les responsables du M5-RFP sont-ils plus légitimes que le président aux yeux du peuple aujourd'hui, selon vous ?»
Mais avant, permettez-moi de réagir à certaines controversées qui ont été dites par M. Amadou Koïta. Il parle de respect. Vous savez, avoir un esprit réfractaire à l'injustice et à la transformation de la vérité, ce n'est pas de l'irrespect. Nous ne respecterons jamais ceux ou celles qui engagent les forces antiterroristes contre les paisibles citoyens. Nous ne les respecterons jamais. À parler de peuple, vous savez, la notion de peuple est une notion vague. 1 500 000 personnes ont voté pour M. Ibeka. Et pour autant, M. Amadou Koïta se plaît à dire qu'il a été élu par le peuple malien. C'est quand même avoir un esprit sélectif. Vous savez, le drame de notre pays, la tragédie de notre pays, c'est que pendant 7 ans, il a été dirigé par un homme qui est entouré par des personnes qui ne se rappellent que de l'article relatif à la fin du mandat, au nombre de mandats de notre Constitution.
Mais certains responsables
donc,
de M5 aujourd'hui,
très honnêtement,
faisaient-ils pas partie des
savez,
personnes
je qui étaient proches du président? Je ne suis pas dans des questions de personnes. Noum Sarr, depuis 2013, est opposé à la tyrannie de gouvernance qui a été instaurée.
Alors, la question à votre de Mohamed Ousmane, les responsables du M5-RFP sont-ils plus légitimes que
savez,
le président?
Vous savez, nous sommes modestes. Modestie oblige. Le M5-RFP a rassemblé des centaines de milliers de personnes dans la rue. Le boulevard de l'indépendance appartient à tout le monde. Nous invitons les soutiens du président à se rendre là-bas. Le M5-RFP a rassemblé au-delà de nos frontières. Le M5-RFP a suscité l'espoir. Le M5-RFP, à travers sa posture aujourd'hui, démontre à suffisance qu'il incarne la légitimité populaire. Ne pas le reconnaître, c'est avoir un esprit tordu.
Alors, je pose une deuxième question. Après donc le départ du président, pouvez-vous garantir la stabilité nationale?
Vous savez, qui a déstabilisé ce pays? C'est la gouvernance qu'on nous a servie pendant 7 ans. Qui a déstabilisé ce pays? ce sont ceux qui ont pillé les ressources de l'armée, mettant nos militaires dans des conditions dérisoires où ils tombent par dizaines. Qui a déstabilisé ce pays ? C'est ceux qui ont laissé le clanisme et l'affairisme s'installer au sommet de l'État. Le M5-RFP est résolument décidé, engagé à restaurer la dignité de ce peuple-là, à faire en sorte que la stabilité revienne, que l'intégrité du territoire soit reconquise, que l'unité nationale qui a été ébranlée par une gouvernance calamiteuse soit restaurée. Et nous sommes dans cette logique-là. Vous avez parlé de la CEDEAO. Vous savez, l'embryon de la CEDEAO, sinon le fœtus, a été conçu au Mali, dans notre pays. La semence, la première semence de la CEDEAO a été plantée au Mali, dans notre pays. Nous sommes un grand peuple. Nous sommes une grande nation. Nous sommes le pays concepteur d'empire et de royaume. Nous ne serons à aucun moment acceptés qu'un chef d'État qui a perdu toute sa légitimité à l'intérieur de son pays aille conquérir cette légitimité à l'extérieur au travers de chefs d'État qui, nous savons ce qu'ils pensent de lui en privé. Donc, nous ne l'accepterons pas. Nous avons rejeté poliment, fermement, les recommandations de la CEDEAO. Nous leur avons écrit, nous leur avons fait savoir. C'est leur dire que le Mali est arrivé à un niveau où la digue dont M. Goïta a parlé a commencé à rompre.
Mais pouvez-vous garantir aujourd'hui la stabilité au cas où vous obteniez votre demande qui est le départ du président de la République? C'est la question de Mohamed Ousmane Alibi.
Eh bien, droit dans les yeux, je vous réponds par l'affirmatif. Nous vous garantissons
la sécurité. Quel est donc votre plan? Parlez-nous-en.
Mais vous savez, ceux qui disent qu'après M. Ibeka, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une insulte au génie malien. J'ai envie de dire que nous sommes le pays que la colonisation a mis plusieurs années à conquérir. Tous nos voisins ont été conquis en 2-3 mois, en l'espace de quelques semaines. La résistance du Bélédou, la résistance des bobos, à travers
une question. Est-ce que le M5-RFP a un plan aujourd'hui si le président de la République quittait le pouvoir?
Je vous dis, c'est une insulte de dire que voici le plan du M5-RFP.
Le M5-RFP est une composante. Est-ce que le M5-RFP en a un plan?
Mais bien sûr.
Mais vous pensez, qu'est-ce qui vous empêche de le dire aujourd'hui? Est-ce que vous ne faites que pas confiance aux Maliens pour leur dire le plan?
Des hommes et des femmes qui sont leaders politiques, qui ont vocation à conquérir et à exercer le pouvoir, dont plusieurs ont été des candidats aux élections présidentielles.
Mais vous avez un plan. Parlez-nous de ce plan.
Mais vous savez, nous verserons au moment opportun ce plan au débat national que nous souhaitons, que nous avons toujours souhaité.
Pourquoi pas
maintenant? Ils ont utilisé des subterfuges en nous disant qu'il y a eu dialogue national, il y a eu, conférence d'entente nationale. Nous attendons que M. Ibeka prenne son café le matin du vendredi prochain pour annoncer au peuple malien et au monde entier qu'il accepte de démissionner. En ce moment,
sera convoqué un congrès extraordinaire. On va donner la parole à M. Koïta. M. Koïta,
vous aurez beaucoup de temps.
Monsieur, vous aurez le temps, le chrono est ici, tout le monde pourra avoir son temps de parole. Est-ce qu'aujourd'hui, Noum Sarr estime que le M5-RFP, sa seule demande par rapport au dialogue aujourd'hui, c'est le départ du président de la République? Est-ce que cette demande est acceptable pour la majorité présidentielle?
Bon, je me demande quel M5-RFP, puisque j'ai entendu quand même certains leaders du M5-RFP dire qu'ils ne sont pas pour le départ du président de la République, qu'ils sont pour le respect des institutions de la République.
Quel leader, par exemple?
Le leader de la CEMAS. Je crois qu'à ce niveau, et le M5-RFP même, je crois qu'à travers la feuille de route qu'ils avaient soumise sur le mémorandum, leur mémorandum, c'était le maintien du président de la République. Leur mémorandum, c'était la nomination d'un premier ministre plein pouvoir. La nomination, c'était la mise en place d'une constituante. Bref, une transition qui ne dit pas son nom. Donc, je vois que certains amis du M5-RFP, notamment Noum Sarr, veulent le chemin raccourci pour accéder au pouvoir. Vous savez, Mahatma Gandhi disait que le jour où le pouvoir de l'amour dépassera.
Le chemin raccourci, ça veut dire...
Le chemin raccourci, il vient de dire, ils exigent la démission du président de la République. Il vient de dire, ils veulent le pouvoir pour le pouvoir. Moi, j'ai pris le Tout-Puissant. J'ai dit, Mahatma Gandhi disait que le jour où le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. Je souhaite qu'au sein du M5-RFP, que le pouvoir de l'amour dépasse l'amour du pouvoir.
Est-ce que c'est possible aujourd'hui que la majorité accepte le départ du président?
Oui, nous, ça c'est... c'est pas l'ordre du jour. Le président a été élu par le peuple malien. Il vient de dire qu'il a été élu par 1 700 000 Maliens. Il faut respecter les 1 700 000 Maliens. Le vote, c'est un devoir. C'est un acte de citoyenneté, mais ce n'est pas une obligation au Mali. 34% ont participé aux élections présidentielles, au second tour des élections présidentielles. Je me rappelle encore, M. Nounsar est toujours dans le déni des réalités, puisqu'après cette élection présidentielle, il était sur tous les plateaux pour dire que le président Ibeka n'a pas gagné les élections, pour dire que le bref. Bon, je crois que tout ça s'est passé. Nous invitons nos amis à revenir autour de la table. Nous invitons les amis, s'ils ont un projet de société, s'ils pensent pouvoir faire mieux que nous, s'ils pensent pouvoir faire mieux que le président de la République, c'est de transformer tout ce qu'ils sont en train de dire à un projet de société et attendre 2023. Attendre 2023.
Parmi leurs demandes, il y a la demande du départ du président de la République, mais dans le mémorandum, il y avait également une demande de Premier ministre de plein pouvoir. Si vous n'acceptez pas le départ du président, est-ce que vous pouvez accepter un Premier ministre de plein pouvoir aujourd'hui?
La Constitution du Mali n'a pas prévu de Premier ministre de plein pouvoir.
Donc ça également, c'est inacceptable.
Nous n'avons même pas une bonne expérience de Premier ministre de plein pouvoir. J'étais avec Nounsar en 2012, lorsqu'on combattait ensemble le coup d'État. Donc il doit faire attention. J'ai dit à mes amis de revenir à la raison. J'ai dit à mes amis, ils sont des républicains. J'ai dit à mes amis, ils sont des démocrates. Revenez à la réalité. Revenez à la maison. Retrouvons-nous. Bâtissons ensemble le Mali.
Qu'est-ce qui vous a séparé au juste?
Ce qui nous sépare, c'est que de façon subite, nous disons, ils sont porteurs d'un certain nombre de revendications, nous le disons, légitimes, que le gouvernement à l'époque a tendu sa main également en disant que ces revendications sont légitimes. Retrouvons-nous, quelle que soit la gouvernance, seule la gouvernance de Dieu est parfaite. Nous sommes des humains. Mais il faut reconnaître que des efforts ont été faits. Ils sont dans la rhétorique, ils sont dans l'instrumentalisation, ils parlent de mauvaise gouvernance, ils parlent de détournement, ils parlent de l'armée, mais reconnaissez les efforts qui ont été faits au sein des forces armées de sécurité. Heureusement, c'est le Cormier. Allez-y demander le lieutenant, allez-y demander le commissaire de police, allez-y demander les officiers supérieurs. Les efforts qui ont été faits sont là, les efforts qui ont été faits sont palpables. Des efforts restent à faire. Des efforts restent à faire dans tous les domaines. Si le temps nous permet, nous allons ici les énumérer.
Qu'est-ce que vous pourrez accepter alors à travers le dialogue?
Ce que nous acceptons à travers le dialogue, c'est de venir ensemble que nous participions à un accord politique de l'Assemblée nationale. Accord qui sera sorti d'une feuille de route. Et accord également qui permettra la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Le gouvernement d'union nationale qui s'attellera à la mise en œuvre d'abord des résolutions et recommandations du dialogue national et inclusif. Gouvernement d'union nationale dans lequel nous souhaitons que M. Sarr soit pour qu'il puisse apporter ses solutions. Critiquer, c'est bon. On dit que la critique n'a un effet solitaire que lorsqu'elle est constructive. Mais que M. Sarr sache qu'il est allé aux élections législatives en commune 4, le peuple de la commune 4 ne s'est pas reconnu en lui. Que M. Sarr sache également que dans le M5 RFI, si je ne m'abuse, il y a 4 ou 5 ministres, anciens ministres du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui à chaque fois, à chacune de leurs sorties, disent qu'ils ont un bilan positif quand ils étaient dans le gouvernement. Et quand j'entends M. Sarr dire que rien n'a été fait, au moins le bilan positif de ces ministres est le bilan du président de la République. Que ce soit le ministre Choguel, que ce soit le ministre Muntagatal, que ce soit le ministre Koniba, que ce soit le ministre Bachili, ont tous reconnu que quand ils étaient dans le gouvernement, ils ont pu amener ils ont pu poser des actes qui ont été un progrès pour le Mali. Donc quittons le déni des réalités, quittons la politique politicienne, revenons au Mali, sauvons ce pays. Le monde entier s'est uni comme un seul homme pour nous venir en aide. On était ensemble, ça.
La parole à Noum Sarr maintenant. Vous étiez ensemble, vous êtes séparés. Donc, vous l'avez souligné tout
sache,
à l'heure.
Mais qu'il sache que
qu'est-ce que, à part
le pouvoir ne peut se prendre au Mali qu'à travers les urnes.
D'accord. À part la demande de départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, qu'est-ce que vous pourrez accepter à travers un dialogue pour que cette crise sociopolitique puisse prendre fin?
Vous savez, un célèbre penseur chinois, Confucius, disait que l'arrogance est pire que l'avarice. L'arrogance est pire que l'avarice.
Qui est arrogant?
L'arrogance, c'est de considérer dans notre pays que les élections sont aujourd'hui les voies d'accès, la voie royale d'accès au pouvoir. L'arrogance, c'est ne pas reconnaître que des voies ont été blanchies à la Cour constitutionnelle, que le système constitutionnel d'élection pour accéder au pouvoir a été tronqué, falsifié, a été verrouillé systématiquement par Amadou Koïta et ses amis. Ne pas le reconnaître, c'est quand même de l'arrogance. Monsieur Koïta a dit des choses qui ne sont pas exactes. Les mémorandums, les FSD, le M5, les FSD et l'ensemble des partis ont fait un communiqué pour dire qu'il est caduque. Ce n'est pas moi qui vais apprendre à Monsieur Amadou Koïta
Le sens du mot caduc. Oui, le mot caduc veut dire quoi?
Parlons du
veut dire tout simplement qu'il n'existe plus.
Tous les deux,
vous savez, non, permettez-moi de reprendre, c'est extrêmement important. Il a dit des contre-vérités. Monsieur Amadou Koutar doit avoir honte de dire qu'il y a eu des choses.
Pas d'injure.
Attends, non, s'il vous plaît, la honte, c'est pas une injure. Pas une injure.
Voilà.
Vous devez avoir honte de dire que notre armée a été renforcée, a été reconstruite. Vous devez, c'est quand même scandaleux. Une armée dans laquelle on a injecté plus d'un milliard de dollars et les militaires n'arrivent pas à tenir des bases militaires.
D'accord. À travers le dialogue aujourd'hui, qu'est-ce que le M5-RFP est prêt à prendre et qu'est-ce que le M5-RFP ne va pas accepter ?
Je le répète, j'insiste, je persiste et je signe. Le dialogue pour le M5-RFP doit se faire autour des conditions du départ de M. Ibrahim Boubacar Keïta.
Est-ce qu'on peut parler là de dialogue?
C'est pas difficile.
Si vous avez mais une vous seule savez, exigence hein, qui est le départ du président.
Vous savez, le peuple malien en a ras-le-bol. Le peuple malien est arrivé à un niveau où il n'est plus acceptable de continuer avec ces gens pour diriger notre pays.
D'accord. Parlant de peuple, il y a Toumani Diakité qui pose une question. Nous qui ne sommes, ce sont ces termes, nous qui ne sommes ni pour IBK, ni pour le M5, pourquoi ils nous empêchent de faire nos affaires quotidiennes?
Je ne sais pas si nous sommes dans le même pays. Personne n'empêche personne de faire ses affaires quotidiennes.
À travers la désobéissance civile, est-ce que des activités ne sont pas paralysées?
Vous avez vu qu'il n'y a pas eu de barricade. La jeunesse responsable du M5-RFP s'est abstenue de faire des barricades. Allez-y, vérifiez. Nous sommes dans une phase de sensibilisation. Et nous nous sommes rendus dans les services publics pour sensibiliser les premiers responsables, leur demandant d'arrêter de travailler. À Sikasso, il y a eu même un avis, un document élaboré qui a été distribué, qui a été donné aux responsables.
Donc, M. Sarr estime que depuis le début de cette crise, des activités n'ont pas été paralysées.
Bon, vous savez, quand il y a un refus d'obéir à un pouvoir illégitime, à un pouvoir qui a usé sa légitimité à travers sa gouvernance, quand il est évident que le peuple refuse qu'il soit dirigé par celui-là et ceux-là qui ont conduit notre pays à l'abîme, quand le peuple décide de faire respecter sa constitution qui a été profanée pendant 7 ans, quand lorsque le chef de l'État, qui en principe est garant de la constitution, viole le principe sacro-saint de séparation des pouvoirs en descendant dans l'arène politique pour imposer un monsieur comme président de l'Assemblée nationale, convenez avec moi que le peuple a le droit légitime à la légitime défense populaire. La constitution est la fille du peuple. C'est pourquoi dans ce débat, j'ai refusé de rentrer dans un juridisme corné, dans un juridisme aveugle.
D'accord, vous êtes à 16.
La question est politique. La réponse doit être politique.
D'accord, Monsieur Koïta, le dialogue est-il toujours possible?
Oui, le dialogue est
possible. Dans ces conditions, puisque
nous sommes un pays de dialogue.
Noumsar vient de dire tout de suite que le dialogue ne se fera qu'à partir des conditions de départ du président.
Le dialogue est un pilier inébranlable de notre société.
Oui, mais est-ce que vous acceptez de dialoguer autour des conditions?
Nous allons continuer à dialoguer et nous prenons le peuple malien à témoin, l'opinion nationale et internationale à témoin. M. Sarr estime qu'ils sont forts, M. Sarr estime qu'ils sont puissants. Vous savez, on dit souvent que toute force est détruite par ses excès. Et que le plus fort n'est jamais assez fort pour demeurer toujours le maître que si, lorsqu'il transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Vous parlez du peuple. Oui, vous êtes une partie du peuple. Vous parlez de la gestion. Oui, nous sommes d'accord qu'on peut améliorer la gestion. Mais nous vous invitons pour que ce peuple qui souffre, vous venez de parler, vous avez dit il y a 1 700 Maliens qui ont voté pour le président de la République, 600 et quelques mille pour son challenger d'alors, Soumaïla Cissé. C'est l'occasion pour moi également de prier le Tout-Puissant qu'il puisse regagner sa famille sain et sauf. Nous prions chaque jour le Tout-Puissant et nous savons que l'État est en train de faire un travail pour sa libération. Donc nous vous demandons tout simplement à M. Sarr et à ses amis, les M5-RFE, de revenir à la réalité, d'avoir les pieds sur terre. Revenir à la réalité, d'avoir les pieds sur terre et de leur dire tout simplement que nous sommes qu'à 2 ans du mandat du président de la République. Des efforts ont été faits, des efforts restent à faire. Vous avez dit pendant 7 ans, j'espère que vos différents ministres, anciens ministres, ne partagent pas cela. Je ne pense pas que Choguel Maïga dira que pendant 7 ans, rien n'a été fait, puisqu'il dit que quand il était au gouvernement, il fut ministre de la communication, qu'il a eu un bilan positif.
Et à Maître ce propos, Montagata, il y a Balata Ahamad du Sidibé qui vous pose une question. Il dit oui. Qu'est-ce que le président Ibeka peut faire qu'il n'a pas tenté depuis 2013?
Oui, il en a assez fait. Il reste beaucoup à faire. Pour l'amélioration des conditions des travailleurs du Mali, il a procédé à l'augmentation des salaires de 21%. Il a amélioré également les SMIG de 28 000 francs à 40 000 francs. Il a construit autant de routes. Il a construit autant d'hôpitaux. Il a, sur le plan agricole, comme vous savez, l'agriculture, l'élevage et la pêche constituent le poumon de notre économie. Il a consacré 15% du budget à l'agriculture, qui fait que en 2018, notre pays a été le premier producteur de coton avec près de 700 000 tonnes. En 2018, nous avons produit 10 544 000 tonnes de céréales, mille, riz et puis maïs. Aujourd'hui, des efforts sont en train d'être faits également au niveau social. Comme vous le savez, il y a les pupilles de la nation. Au niveau social, il a parlé également des forces de sécurité. Si hier, un militaire qui tombait, notre souhait, ce n'est pas ça. Mais le militaire, en décidant de porter l'uniforme, accepte de sacrifier sa vie pour la souveraineté du pays, pour l'intégrité territoriale, pour que lui au moins puisse être là et débattre. Ce militaire qui tombe, hier, avait, sa famille avait un sac de riz et 50 000 francs. Aujourd'hui, grâce à la loi de programmation et d'orientation militaire, un militaire qui tombe, sa famille, ses ayants droit, ont au moins un grade supérieur. Et puis 10 ans de salaire.
Vous avez parlé des acquis du président Ibrahim Boubacar Keïta. Qu'est-ce qui explique donc ce soulèvement d'une partie de la population? Est-ce que c'est parce que ces populations ne voient pas ces acquis?
Dans tous les pays au monde, il n'y a pas l'unanimité.
Mais à ce niveau, jusqu'à paralyser certains secteurs du pays.
Nous sommes en train de les demander parce que nous estimons aujourd'hui que la seule guerre que nous devons mener, c'est la guerre contre le terrorisme. Voilà pourquoi nous les tendons la main. Voilà pourquoi nous les demandons de revenir à la raison. Sarr et moi sont là en train de parler. Au même moment, nous avons nos jeunes frères, au même moment, nous avons nos fils qui sont au centre, qui sont au nord, au péril de leur vie. Donc, essayons de pacifier Bamako. Nous n'avons pas besoin d'une autre crise, mon frère.
Balata, revenez à la raison question, et sachez... Dit, la solution pour le Mali n'est-elle pas le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta et la mise en place d'une transition qui fera un toilettage institutionnel et une préparation des futures élections crédibles?
Oui, le dialogue national inclusif a prévu ça dans ses résolutions. La première, c'était la tenue des élections législatives. La seconde, c'était les réformes institutionnelles. Puis également le redéploiement de l'armée et de l'ensemble des forces, des services de sous-sol de base, et également la relecture de l'accord pour la paix et la réconciliation. Je crois que nous avons fait le dialogue inclusif, dialogue qui a eu le mérite d'être organisé dans toutes les communes du Mali, excepté quelques communes, à l'intérieur comme à l'extérieur. On s'est retrouvés pendant une semaine pour parler que du Mali et envisager ensemble des pistes de solutions.
D'accord.
Je crois que dès l'instant que nous parlons du Mali,
Noumsar, est-ce que vous voulez, le M5-RFP veut la fin de cette crise sociopolitique?
Vous savez, M. Amadou Koueta aime parler du passé, des anciens ministres d'hier. Mais si nous devons rester dans l'hier, lui ne serait pas là aujourd'hui. Il ne serait pas dans la mouvance.
Si on doit parler de l'avenir et de solutions aujourd'hui pour les auditeurs,
s'il vous plaît, M. Koïta,
pour les auditeurs et les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui, quelle solution est-ce que vous leur proposez pour que cette crise sociopolitique que le Mali vit prenne fin?
Vous savez, cette crise sociopolitique va être très difficile qu'elle prenne fin tout de suite. Parce que M. Ibeka et ses amis comme Amadou Keïta réduisent tout à une question de poste, de place, de gouvernement d'union nationale.
C'est ça
en 2017. Demandé.
Tout de suite. Donc, Monsieur Ibeka,
en 2017, à Kangaba, a dit que son gouvernement était un gâteau. Son pouvoir était une pâtisserie. Parlant de ministre, il a dit qu'ils sont venus manger. Ils se sont remplis le ventre et les poches. Ils sont partis sans même faire la vaisselle. Donc ils réduisent tout à des questions de gâteau. C'est ça le drame. Nous avons posé des problèmes de fond. Nous avons estimé qu'en 7 ans, il y a eu 6 premiers ministres, des dizaines de ministres. Donc ce n'est pas une question de gouvernement.
Vous parliez de passé,
c'est une question de leadership et de vision.
Aujourd'hui, quelle solution? Quelle solution pour la fin de cette crise sociopolitique, puisque vous-même vous estimez qu'elle ne prendra pas fin de suite?
La solution, elle est simple. Si demain, M. Ibeka accepte de rendre le tablier, accepte de regarder le peuple malien droit dans les yeux et lui dire honnêtement
nous avons échoué en 7 ans. Je vous rends ma démission et je vous souhaite le meilleur. La crise prendra fin tout de suite. Il a dit que...
Mais Koïta a soulevé une question. Il dit que le M5 même semble ne pas partager cette position qui est le départ du président de la République. Il a signé le cas de la CEMAS.
Il faut éviter de prendre des propos d'interview pour les positions du M5. Le M5-RFP a de tout le temps écrit ses positions. Lorsque nous avons proposé le mémorandum...
Mais n'êtes-vous pas en train de donner les positions du M5-RFP puisque vous dites de ne pas prendre
la position du M5-RFP rappelée dans sa dernière déclaration est sans embâge. Il s'agit de la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta.
Y a-t-il une division aujourd'hui au sein du M5-RFP?
Ah non, pas du tout. Nous voyons les sbires sur les réseaux sociaux, des gens montés qui, à partir de salons feutrés, montrent des articles et ceci, cela. Mais nous sommes droits dans nos bottes et nous sommes convaincus que l'objectif qui consiste à débarrasser le pays de cette gouvernance calamiteuse dont le chef est M. Ibeka, cet objectif sera atteint. Donc le M5-RFP est aujourd'hui plus que jamais uni. Dans un groupe où des gens viennent d'horizons divers, c'est normal qu'il y ait des divergences au sein de la mouvance présidentielle, parce qu'ils ne sont plus majoritaires, ils ne sont plus une majorité. C'est une mouvance présidentielle où il y a de tout venant, où les gens se suivent un peu partout. Donc, dans un groupe aussi varié, il y a souvent des positions, mais la position exprimée, écrite, au bas duquel chacun a apposé sa signature, c'est la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta.
Amadou Koïta, est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui, vous avez reconnu que les défis qui sont soulevés, les problèmes qui sont soulevés par le M5 sont vrais, mais est-ce que le fait qu'il signale que le président Ibrahim Boubacar Keïta dans la gestion a échoué aujourd'hui, vous reconnaissez ça également?
Non, ils sont dans les droits.
Mais est-ce que vous reconnaissez cela?
Non, pas du tout, c'est le peuple malien qui doit apprécier cela. Et en 2018, le peuple malien a renouvelé sa confiance au président de la République. Ça veut dire que le peuple malien apprécie à hauteur du souhait le bilan du président de la République. Nous faisons notre mieux et nous voulons qu'on soit ensemble pour améliorer.
D'accord. Sur Facebook, Moussa Sidibé dit « Nous avons atteint un niveau très avancé. » Il dit « Nous avons atteint un niveau très avancé dans la crise qui demande des sacrifices de part et d'autre. Ne faut-il pas innover le dialogue politique aujourd'hui en faisant plus recours à des experts du dialogue politique dans les instituts spécialisés et sortir des cadres politiques déjà établis qui sont dépassés selon lui ?»
Oui, nous avons besoin de toutes les expertises.
Est-ce que vous faites recours à ces expertises
aujourd'hui?
Nous
faisons recours à toutes les expertises.
Qu'est-ce qui bloque dans ce cas, monsieur?
Mais ce qui bloque, c'est que le peuple malien vient d'entendre à travers Studio Tamani que M. Sarr pense que la crise ne prendra pas fin qu'après la démission du président de la République. Que M. Sarr veut fouler la constitution malienne. Que M. Sarr est tellement pressé d'accéder au pouvoir qu'il pense qu'il faut emprunter les chemins raccourcis. Cela ne passera pas, M. Sarr. Cela ne passera pas. Le peuple malien, M. Sarr qui a défendu d'ailleurs la constitution, qui continue à défendre, j'espère, le 25 février 92. Cette constitution est claire à la matière. Hein, à l'article 26, l'article 121, l'article 29, l'article 30. Restez dans la constitution. Vous êtes des démocrates, vous êtes des républicains et respectez le peuple malien. Il vient de dire tout à l'heure que la position du M5-RFP est claire, c'est la démission du président de la République. Mais l'autorité morale du M5-RFP, c'est qui? C'est M. Mamoudou Diko. L'imam Mamoudou Diko, il a toujours dit, je me désolidarise de toute idée qui est de la démission du président de la République. Parce que j'ai mon pays.
D'accord. Tout il nous reste deux minutes, une minute pour chaque invité, puisque vous avez atteint vos temps. Je reste avec vous tout de suite. Monsieur Noum Sarr, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, reçoive le M5-RFP et que vous renonciez à cette demande de départ du président de la République revendications?
Vous savez, ces gens ne se rappellent que de l'article de la Constitution qui parle de mandat. Lorsqu'on viole la Constitution, lorsqu'Ibeka profanait la Constitution et qu'eux, ils applaudissaient,
en quoi ils parlaient pas de la Constitution.
Mais la violation du principe de séparation.
Quelles sont les prochaines étapes?
Quand on viole la séparation des pouvoirs, on viole la Constitution.
Il vous reste 25 secondes. Quelles sont les prochaines étapes aujourd'hui pour le M5?
Le M5-RFP appelle à un rassemblement gigantesque, comme cela n'a jamais été le cas, le mardi prochain. Nous appelons le peuple souverain du Mali. Nous appelons la jeunesse malienne, les femmes du Mali, à nous rejoindre le mardi prochain au monument de l'indépendance.
D'accord, temps écoulé. À vous, monsieur Keïta. Aujourd'hui, est-ce que le président Ibrahim Boubacar Keïta est prêt à rencontrer face à face le M5-RFP pour dialoguer?
Bien sûr, le président Ibrahim Boubacar Keïta.
Qu'est-ce qui l'empêche jusqu'à présent?
Il continue toujours à tendre sa main. Il a rencontré le
M5-RFP. Au-delà de tendre sa main, est-ce qu'il va les recevoir pour dialoguer directement avec le M5-RFP?
Et il a demandé au M5-RFP, puisque c'est un problème politique, de dialoguer, d'échanger avec la majorité présidentielle.
Alors, Noumsar, est-ce que la crise ne prendra pas fin tout de suite? Est-ce que vous pensez que la crise prendra fin tout de suite?
Parce que pour Noumsar, il vient de dire que le président a violé la Constitution, parce que le président, c'est...
Il vous reste 6 secondes. Est-ce que la crise prendra fin tout de suite?
Monsieur Sarr, vous êtes encore un apprenti. Vous savez, on dit que la seule chose que l'intelligence ne donne pas à l'homme, c'est l'expérience.
Merci beaucoup, temps écoulé. Vous avez tous 21 minutes et 4 secondes. Crise sociopolitique au Mali. Le dialogue est-il encore possible? Nos invités étaient des représentants de la majorité présidentielle et de l'opposition. Amadou Keïta, ancien ministre, membre de la coalition des forces républicaines CFR, Noum Sarr, homme politique, membre du mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques M5-RFP. À la régie vidéo et audio, Péting Diarra et Gagny Kanté, je suis Mouhamadou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Et je rappelle que vous nous suiviez sur 85 radios en direct et sur Facebook Live. Et ce soir à 21h30 sur NRJ TV, 23h sur Renouveau. Merci à tous.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri. Haloud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.